Bonjour à tous. Et nous allons commencer par un tableau. Et je vais vous le solliciter. Tu peux le montrer ? Voilà. Alors voilà un tableau que j'ai trouvé. Et je vais vous demander ce que ça représente. Alors surtout, n'hésitez pas à participer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce tableau ? Qu'est-ce que ça représente d'après ce que vous voyez ? Pardon ?
Moi, je pense à la scène où Jésus, la femme a bien lui mettre du parfum, du sujet très cher sur les pieds.
Mmh. Oui. Pardon. Oui. Oui, bah vous, c'est très fort, hein. Bravo. Et surtout, ce que je voulais aussi remarquer, c'était pendant aussi un repas. Hein. Tout se déroule autour d'un repas. Hein. Eh bien, en effet, tu avais raison. Donc, ce passage, c'est le dîner chez le pharisien. Et c'est dans Luc 7, versets 36 à 50. Et nous allons commencer par le lire ensemble. Et pour le lire, j'ai besoin de l'aide de Mika et de Christophe. Donc, versets 36 à 50, Luc 7. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme, connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme est vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix.
« Simon, j'ai quelque chose à te dire. »
« Oui, maître, parle. »
répondit le pharisien.
« Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'il lui devait. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ?
Simon répondit.
Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette.
Voilà qui est bien jugé.
Lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit.
Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans la maison, dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour.
Puis il dit à la femme,
« Tes péchés te sont pardonnés. »
Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme,
« Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. »
Jusque-là, la parole de Dieu. Nous allons reprendre le tableau et on va un petit peu s'intéresser au personnage. Donc, comme vous l'avez dit, on voit Jésus, on voit le pharisien et la femme. Et on va tout particulièrement zoomer sur le pharisien et la femme. D'abord, ce pharisien. Il est dit dans le verset 36, un pharisien invita Jésus. Donc on peut dire de là que c'est lui qui invite, c'est lui qui organise ce repas, c'est l'hôte. Et puis c'est un pharisien. Alors creusons un petit peu sur ce que signifie pharisien. En fait, c'était un juif de l'époque et qui suivait la loi de Moïse. Mais sur cette loi ont été rajoutés plein de préceptes, de petites règles qui viennent de la tradition. Et au fur et à mesure du temps, ces petites règles ont pris la place pratiquement à la loi. Et les pharisiens pensaient que s'ils obéissaient à toutes ces règles, eh bien, cela leur accordait le bonheur, la prospérité, et surtout les bénédictions de Dieu, donc. Et bien sûr, toute personne non juive était considérée comme impure et qu'il ne fallait surtout pas se mélanger à l'impureté. Eux, les juifs pharisiens, ils avaient droit à la bénédiction de Dieu, mais pas les autres. Eux, ils obéissaient aux lois. Donc, ils avaient tout l'honneur de Dieu, mais pas les autres. Donc, évitons le contact avec l'impureté. Donc, ce pharisien, on peut dire qu'il représente l'élite de cette société, ce qu'on dirait aujourd'hui les bien-pensants. Et qu'en est-il de cette femme ? En fait, elle n'est pas du tout invitée. Parce que dans le verset 37, on dit... survint une femme. Donc elle n'est pas invitée. Alors comment elle a fait pour venir ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Il faut juste savoir que dans ces dîners à l'époque, qui étaient faits pour donc les hommes, c'était souvent des hommes qui se réunissaient, des pharisiens ensemble pour parler des choses de la Bible, certainement, enfin de la parole, ou pour partager ensemble, c'était des repas fraternels. Il y avait quand même une table qui était mise à part et qui était là pour les gens de passage et puis pour les pauvres. Donc, cette femme, elle a pu se faufiler par là, au milieu de cette organisation. Mais comment le texte la désigne ? Quand on voit le verset 37, cette femme, elle est appelée comme une femme connue dans la ville pour une vie dissolue. Dans le verset 39, on dit « quelqu'un », on ne dit même plus une femme, on dit « quelqu'un qui mène une vie de débauche ». Puis un peu plus loin, on dit « sept femmes », avec le « sept », vous savez qui... Oh là là, ça, ce truc-là. En fait, tous ces mots sont assez péjoratifs. Ils montrent un grand mépris à l'égard de cette femme. Ils montrent qu'elle est quelqu'un d'impur, qu'il ne faut pas fréquenter. Alors que le pharisien, lui, il représente l'élite de la société. Maintenant, on va revenir sur le bernier, sur le tableau. J'ai oublié de te montrer là, ça ne fait rien. Et on va s'intéresser à la position. Vous voyez, le pharisien, il est assis couché sur cette espèce de divan. Je vous ai montré une image, c'est vraiment la tradition gréco-romaine, de prendre les repas comme ça. On peut dire que l'occupation romaine a fait que la manière de manger a changé, et les gens, pour les dîners de personnes importantes, ont mangé sur ces tricliniums, ces espèces de divans. Donc la position est importante, Parce que, vous voyez, ils sont aussi à la même hauteur, Jésus et le pharisien. Et puis, il y a la femme qui est derrière les pieds de Jésus. Là, on situe bien la position. Elle est aux pieds de Jésus. Cette position, elle a à la fois quelque chose de l'ordre de l'intime. Hein. On parle de parfum qu'elle met sur les pieds de Jésus. Elle les essuie avec ses cheveux. Elle le couvre de baisers. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'humiliation. Parce qu'elle est à ses pieds. Et en fait, elle est en train de lui laver les pieds. C'est le lavement des pieds qui servait de geste d'hospitalité à l'époque. Et donc là, ces gestes d'hospitalité, de lavement de pieds, normalement, il était destiné, c'était une tâche donnée souvent à des esclaves. Donc rien que les positions de ces personnages montrent leur appartenance sociale et un peu leur état d'esprit. Et on va s'attacher justement à l'état d'esprit des personnages. Non, c'est pas ça. Bon, je reste comme ça, alors c'est ça, tu restes là. On peut penser, on va reprendre le pharisien. Le pharisien, il voit cette femme en train d'être aux pieds de Jésus, de verser du parfum, de pleurer. Il y a un malaise quand même. Ça doit le mettre très mal à l'aise. Surtout quand on sait ce qu'elle représente. Et il ne fait pas de scandale, il ne dit rien. Mais le texte nous dit qu'il n'en pense pas moins. Hein. Parce que il se dit, ce Jésus-là, il s'annonce comme être un prophète. On dit de lui qu'il est un prophète, qu'il est un enseignant de la Bible, un maître. Mais dites donc, il ne sait même pas faire la différence entre quelqu'un de pur et d'impur. Il ose se laisser toucher par quelqu'un de si impur, qui est plein de péchés. Il n'arrive même pas à comprendre qu'elle est en train de compromettre sa pureté. Et même plus, sa passivité est peut-être même un signe de déshonneur. Il déshonore ma maison. Mais qui est donc ce Jésus? C'est un prophète? C'est un maître? Ou c'est un imposteur? Il ne sait plus trop où il en est, là, hein, ce pharisien. Il est mal à l'aise. Et je pense que toute l'assemblée doit être aussi mal à l'aise. Quant à cette femme qui n'est pas venue, on l'a dit, qui n'est pas venue par hasard, elle survint. Elle n'est pas venue par hasard à ce dîner. Et on le voit dans le verset 37. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. C'est même un acte prémédité. Elle l'a prévu parce qu'elle apporte quelque chose. Elle vient et elle apporte quelque chose. Et pas n'importe quoi. Un flacon d'albâtre, c'est un peu comme du marbre. Et à l'intérieur, il y a un parfum. Il faut savoir qu'à l'époque, le parfum, c'était quelque chose de très précieux, de très cher. Cette femme de rien, elle a du parfum. Elle veut absolument rencontrer Jésus. Elle a peut-être entendu parler de lui. Parce que, alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les journaux, mais il y avait le bouche à oreille. Le téléphone arabe, voilà. Ça marchait bien, je pense. Et peut-être qu'elle a entendu parler de tout ce que Jésus avait fait avant de venir jusque-là, chez ce pharisien. Elle a peut-être entendu parler de ses enseignements un petit peu révolutionnaires. Elle a peut-être entendu parler du pardon, des guérisons qu'il avait fait. Peut-être même a-t-elle entendu parler de la guérison du paralytique, dont on parle un petit peu plus haut dans ce chapitre, le chapitre 5, verset 21. Parce que Jésus dit à ce moment-là, à toute la foule qui était là, « Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Donc peut-être qu'elle a entendu parler de ça, cette femme. Alors elle vient parce qu'elle veut rencontrer Jésus. Toute son attention est centrée sur lui, sur la personne de Jésus. Elle l'honore, elle l'adore en lui versant ce parfum. Elle s'humilie en lui lavant les pieds. Et elle fait ça devant tous. Elle assume. Elle assume de défier l'ordre social. Elle assume le « quand dira-t-on ?» Et vous savez ce qui lui donne cette force ? C'est la puissance de l'amour. Parce qu'elle sait que Jésus l'aime. Donc ces deux personnages représentent deux mondes totalement différents et même opposés. Le pharisien, c'est le garant de l'ordre établi. Il respecte les règles, il respecte la tradition. La femme, elle représente l'impureté, elle représente le péché. Le pharisien, il s'interroge sur Jésus, il doute. Qui sait ? Tandis que elle, la femme, elle le reconnaît. Elle le reconnaît comme celui qui peut lui redonner espoir, lui redonner vie par son pardon. Elle est pécheresse, elle le sait, mais elle a l'espoir. Et qu'en est-il de Jésus ? Il paraît bien passif, Jésus, là. Il observe la scène, il dit rien. Il dit rien, mais il sait tout. Il sait ce qu'il y a dans le cœur du pharisien. Il connaît ses interrogations. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de cette femme. Alors tout d'abord, il va s'occuper de Simon. Et il va faire ce que j'aime beaucoup chez Jésus. Un acte de pédagogie. Pour moi, c'est le plus grand pédagogue de tous les temps. Et il va utiliser ce qu'il utilise souvent pour enseigner. Il va utiliser la parabole. Là, tu peux mettre l'autre. On va la relire, cette parabole. Versets 40 à 43. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, « j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comment, comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Jésus l'interpelle, le pharisien, par son prénom. Il l'appelle Simon. Donc, il le connaît. En plus, cette formule, Simon, j'ai quelque chose à te dire, c'était une formule qui était souvent employée à l'époque par les enseignants, par les maîtres de la loi, lorsqu'ils voulaient apporter un enseignement à leurs élèves. Et Simon ne s'y trompe pas parce qu'il répond « Oui, maître, parle ». La situation tout de suite là est plus claire. Jésus est l'enseignant et le pharisien, Simon, devient l'élève. Il écoute le maître. Cette parabole, elle met deux personnes en scène. trois personnes en scène, comme un peu dans notre tableau. Hein. Donc, il y a les deux débiteurs et il y a le créancier. L'un des débiteurs a une petite dette, 50 pièces d'argent. L'autre débiteur a une grosse dette, 10 fois plus, 500. Alors, si on fait un peu une correspondance à aujourd'hui, la petite dette de 50 pièces d'argent, ça fait à peu près, on va dire, 2000 euros. L'autre, à peu près 20 000 euros. Donc, ça commence quand même à faire des sommes. Imaginons que peut-être les 2000 euros, en vendant quelques objets, en tapant à la porte de quelques amis ou de la famille, on peut peut-être les rassembler. Peut-être. En tout cas, à l'époque, la banque, c'était pas ça. Et puis, les dossiers de surendettement, non plus. Et quand on avait une dette à l'époque, eh ben, il fallait payer de soi-même. Si on n'avait pas de quoi donner en argent, il fallait donner de sa personne. Et on pouvait devenir esclave pour rembourser une dette. Voire même être poussé à la prostitution. C'est vraiment, c'était notre vie qui était engagée. Alors vous imaginez bien que dans ces quelques versets, quand le créancier dit qu'il voit qu'il est impossible pour ces deux personnes de rembourser leur dette, quand ces deux débiteurs voient que le créancier efface la dette, leur remet la dette, vous imaginez le soulagement. C'est pas n'importe quoi. C'est leur vie qui était engagée. Il leur redonne leur vie. Il leur redonne leur liberté. Leur liberté d'action. Quelle joie! Quel sujet de réjouissance! Alors, Jésus demande à Simon, à ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon, il répond logiquement, hein, avec son petit logiciel de raisonnement. Celui auquel il aura remis la plus grosse dette. Mais est-ce que Simon a vraiment tout décrypté dans cette parabole? Moi, je me suis amusée à décrypter, avec notre lecture d'aujourd'hui, ce qu'il aurait pu entendre réellement. Si tu peux me mettre l'autre. Parce que, en fait, le prêteur, il était une fois un prêteur, le prêteur, c'est Dieu. Les deux hommes qui devaient de l'argent, ben, il fallait le lire comme étant des pécheurs. Ils n'avaient pas de quoi rembourser leurs dettes. Ils n'avaient pas de quoi rembourser leurs péchés. Parce que l'homme par nature est pécheur. Et malgré tous ses efforts, l'homme seul ne peut pas effacer ses péchés, il ne peut pas rembourser. Alors, le créancier fit cadeau, ça veut dire Dieu, par amour, a pardonné les pécheurs. Alors, lorsque Simon répond à la question de Jésus, qui des deux débiteurs aimera le plus le créancier, quand il répond celui auquel il aura remis la plus grosse dette, cela veut dire que pour Simon, l'homme qui a beaucoup péché aime plus Dieu que celui qui a peu péché. Cette déduction de Simon, elle dévoile bien le fond de son cœur. Il montre bien cette déduction, ce raisonnement, montre bien qu'il a un raisonnement avec un logiciel de pensée qui est vraiment dû à sa religion, à ses habitudes. Il n'a pas compris ses analogies, pas jusqu'au bout. Pourtant, il avait déjà quelques clés de par sa culture, mais il n'a pas vraiment compris ce que Jésus voulait lui montrer. Alors Jésus va aller plus loin. Jésus va faire l'application de cette parabole. Il va pousser Simon dans ses retranchements. Si tu peux montrer l'autre. Et là, il va montrer la femme. Et il va lui montrer que lui, Simon, qui se croyait si respectueux des règles et de la tradition, ben, il n'a pas du tout suivi les règles de l'hospitalité. Il a invité Jésus, mais il ne l'a pas accueilli. Alors que la femme, elle, elle l'a accueilli et de tout son cœur. Jésus, là, il va mettre Simon face à ses manquements, en le comparant, son attitude, avec celle de cette femme qu'il avait tellement dénigrée, quelque part. Et là, on le voit, verset 44. « Tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. » Mais elle, me les a arrosées de ses larmes, les a essuyées avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Verset 46. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Ce qu'il n'a pas fait, elle l'a fait. CQFD, ça, moi j'aime beaucoup les CQFD. C'est pourquoi ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Et quand, dans le restant du verset 47, Jésus dit « Celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour », ça appuie ce raisonnement de Simon le pharisien, qui estime que sa vie est méritoire. Il est bien. Il n'a pas besoin du pardon. Cela met aussi en contraste, ce contraste entre Simon et la femme. En fait, il n'y a pas de personnes qui ont peu ou beaucoup à se faire pardonner. Parce que l'on ait une dette de 2000 euros, de 50 pièces ou de 500 pièces, de 20 000 euros, que l'on ait au devoir 5 ou 15 sur 20, on est disqualifié, on n'a pas 20 sur 20. On est disqualifié. On est impur. En fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait fallu que ce pharisien fasse, comprenne, c'est qu'ils prennent conscience de cette dette, qu'elle soit de 20 000 euros ou de 2 000 euros. Ce qui est important là, c'est d'en prendre conscience. C'est ça qui a de l'impact. Parce que la première étape pour accéder au parfum, au pardon de Dieu, c'est d'être convaincu de notre péché. Pensez que nos efforts pour respecter la loi nient notre état de pécheur, ben c'est connaître, mettre un péché. Notons aussi que l'amour pour Jésus de la femme pardonnée, cet amour, c'est le fruit du pardon. Elle n'aime pas pour être pardonnée. Mais elle aime parce qu'elle a été pardonnée et que sa vie a été transformée et qu'elle voit les choses différemment. Elle a compris que Dieu l'avait aimée le premier et elle ne peut que faire une chose, c'est être reconnaissante, c'est adorer, c'est aimer. Et pour finir, tu peux mettre l'autre diapo. Il n'y en a plus ? Si, il y en a une. Ah, Ben alors, mon diapo doit pas être... Tant pis, c'est pas grave. Pour finir, il y a les versets 48 à 50. Je vais vite vous les lire. Je vais vous les relire. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. » Pour finir, pour bien insister sur le CQFD, Jésus proclame publiquement, « Tes péchés te sont pardonnés. » Il met là en plus en évidence l'attitude de la femme qui l'a conduite au pardon. Cette femme, elle a fait une chose. Elle a fait confiance en Jésus. Elle a cru que Jésus était capable de lui pardonner tous ses péchés, de lui enlever ce fardeau. Elle a fait cet acte de foi. Elle a même osé braver l'ordre social pour ça. Quel acte ? C'est comme si elle était sur un précipice et puis qu'elle est tombée, en sachant que Jésus allait la ramasser, quoi. Hein. C'est un acte de foi. Personne ne peut vraiment aimer Dieu avant de reconnaître ses propres péchés et de recevoir le pardon par la foi en Christ. Et on voit bien que les pharisiens, ils ont du mal à comprendre. On les voit bien parce qu'ils disent « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Ils n'arrivent pas ni à accepter leur état de pécheur, ni à accepter que Jésus, c'est loin de Dieu, et il est leur sauveur. Ils croient qu'ils n'ont pas de dette. Et ils deviennent leur propre juge. Ils ne peuvent pas recevoir la bonne nouvelle. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui de toute cette histoire ? Moi, j'ai été touchée quand Jésus interpelle Simon. Il lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et souvent, Jésus, il nous interpelle comme ça. Puis il nous pose des questions qui sont un peu gênantes. « Quelle perception as-tu de toi par rapport à moi ? Comment tu évalues ton amour pour moi ? Quelle est la motivation de ton service ? » Je dois vous dire que ces interrogations, dans tout ce processus de préparation de message, elles m'ont été posées. Parce que dans la question... Je la retrouve plus. Dans les questions, quelle perception as-tu de toi-même par rapport à Dieu ? Est-ce que tu comptes sur toi ? Ou est-ce que tu saisis que Dieu a tout accompli ? Je peux vous dire qu'au début du processus, j'ai pas mal compté sur moi. Et puis, il y a des personnes qui me connaissent, je suis un peu scolaire. Et puis j'aime bien chercher. Alors, je me suis perdue dans des recherches, mais j'en ai rempli des pages. Et j'avais un fichier de plus de 20 pages de recherche. Mais ça me faisait... Mais j'en étais même grisée. Recherche intellectuelle. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais dis là, c'est bon là. Mais qu'est-ce que tu vas apporter dimanche ? Il y avait tout à apporter. C'était impossible. Alors là, j'ai eu le syndrome, vous savez, de l'imposture. Je me suis dit, mais tu te prends pour qui, ma petite, là ? tu crois que tu vas apporter quelque chose? Tu crois vraiment que tu es capable? J'ai douté. J'ai douté que le Seigneur avait tout fait. J'ai douté qu'il pouvait vraiment être là. Quelle est la motivation de son service? Il a fallu que je lâche prise pendant ce processus. Il a fallu que je me mette aux pieds de Jésus. Et à un moment donné, la seule chose que je sais faire quand je lâche prise, c'est que j'appelle à l'aide. Et là, c'est la communion fraternelle qui prend le dessus. Heureusement, Jésus nous aime et Jésus nous a donné des frères et sœurs. Alors mardi, je peux vous dire que lors de ma petite réunion de notre petite réunion de groupe du mardi, ben, j'ai demandé de l'aide. Je leur ai dit, écoutez, il faut que vous priez pour moi. Je ne leur ai pas trop expliqué, mais je leur ai dit, ils ont compris que j'étais mal. Et ils ont prié. Et puis, il y a bien sûr Alain qui m'a accompagnée, parce qu'il sait, quand je commence à manger et que j'ai le regard qui part, quand je fais quelque chose qui me parle et que je ne l'entends même pas, il me dit, oulala, ça cogite là-haut. Reviens sur terre. Bien, à un moment donné, j'ai aussi lâché prise parce que, à un moment donné, j'ai vu que j'avais besoin d'aide. Et j'ai envoyé mon petit plan un peu détaillé à Mika, et puis je lui ai dit, t'as vu, ça part dans tous les sens, Mika. Et il a pris du temps, il a pris une heure de pause sur lui, sur son temps, et il m'a recentré. Avec beaucoup de gentillesse, d'amour fraternel. Tout ça pour vous dire que si on est tous là ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a pardonné, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et que nous, on doit faire comme cette femme, être à ses pieds, ne pas faire comme ce pharisien, penser que notre petit logiciel de pensée, nos façons de faire, notre tradition va régler tous les problèmes. Et je voudrais finir en vous laissant un verset qui m'a beaucoup aidée. C'est 1 Jean 4,19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Voilà la parole. Merci beaucoup de votre attention et de votre gentillesse.